toujours avec vous. La lutte contre le palu, un autre défi mondial. La maladie frappe surtout en Afrique subsaharienne. D'après un essai clinique effectué au Kenya sur des enfants et dont les résultats ont été publiés aux États-Unis, le vaccin expérimental le plus avancé contre le paludisme perd une grande partie de son efficacité après quelques années. En outre, la protection s'affaiblit plus rapidement chez ceux qui vivent dans des zones où les taux de paludisme sont plus élevés que la moyenne. Ces résultats montrent la nécessité de recherches supplémentaires pour trouver la façon la plus efficace de l'utiliser, soulignent les scientifiques britanniques. À Ouagadougou, au pays des hommes intègres, nous retrouvons le docteur Floris Akinore.
Oui, il y a des essais du vaccin beaucoup plus, je dirais, avancés plus que les autres. Il y a un vaccin qui est en train d'être essayé au Kenya. Mais effectivement, comme vous l'avez dit, Monsieur Eric, ils ont trouvé quelques lacunes à corriger. Ils sont en train d'essayer de corriger ça. En fait, parmi ces lacunes, il y a le vaccin lui-même protège jusqu'à aujourd'hui à 35.3.8% et perd la grande partie de son efficacité au fil du temps, au fil des années. Dernièrement, en 2015, ils ont dit que au début, le vaccin protège à 35%, mais progressivement, après 7 ans, ils ont trouvé que le vaccin ne protège seulement que 4.4%. Alors, il y a un autre problème qu'ils ont trouvé. Ils ont trouvé que la protection avec ce vaccin s'affaiblit également plus rapidement chez ceux qui vivent dans des zones où le taux, je dirais la capacité, les taux de paludisme sont plus élevés que la moyenne. Alors, ils sont en train encore de corriger, d'essayer de voir comment multiplier les doses et comment pouvoir gérer ces lacunes qu'ils ont trouvées. Et ils ont poussé même jusqu'à faire trois doses. Ils ont trouvé que le vaccin ne protège que de 28% seulement. Et les 28%, c'est jusqu'à 4 ans seulement. Vous imaginez un vaccin déjà qui protège à 28% et pendant 4 ans seulement, ils ont essayé de mettre encore la quatrième dose. Et c'est après la quatrième dose qu'ils ont trouvé que le vaccin revient à 36% de protection. Mais là aussi, progressivement, le vaccin continue à perdre sa grande partie de protection. Donc, ils sont sur ces lacunes. Je dirais que c'est vraiment ce vaccin qu'on dirait qui est plus avancé, parce que jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas un vaccin qui protège, je dirais, entre 75 ou 90%. Et je dirais aussi qu'il y a d'autres efforts qui se font à gauche, à droite, notamment il y a des découvertes des moyens de protection comme la découverte des savons protecteurs, des produits chimiques pour essayer de faire la prévention parce que au niveau de la santé publique, on trouve que si devant une maladie, on parvient à avoir des méthodes préventives, ça veut dire les méthodes de protection bien avant que et la maladie n'arrive, on gagne d'abord en santé de la population et on gagne aussi en gains financiers.
À Ouagadougou, par exemple, quelle est son ampleur?
Alors, à Ouagadougou, au Burkina Faso, je dirais que le paludisme est au même niveau que l'Afrique subsaharienne, malgré qu'il y a eu quand même, jusqu'en 2015, il y a eu des progrès de protection, de prévention, notamment il y a eu, je dirais, la facilité à la population pour pouvoir se soigner, la diminution des prix des soins, les enfants de moins de 5 ans qui se soignent gratuitement aussi. Et vous savez exactement comme le paludisme est une un danger public, surtout du côté des enfants. Alors, il y a beaucoup de progrès au Burkina Faso comme dans d'autres pays, au Sénégal et partout ailleurs. La plupart des pays ont opté les méthodes de gratuité ou bien de diminution des frais des soins, des premiers soins, ce qu'on appelle des soins simples. Alors, mais toujours, ça reste comme, je vous l'ai dit, ça reste comme toujours dans l'Afrique, dans toute l'Afrique, surtout subsaharienne, le paludisme reste le plus grand problème de santé publique et reste toujours la pathologie, donc la maladie qui tue beaucoup plus que les autres.
En Afrique, le paludisme constitue un problème de santé publique, le docteur Akinode explique.
C'est une maladie qui est parasitaire, une maladie qui est plus répandue au monde. Le paludisme reste toujours la maladie qui tue beaucoup. Jusqu'à aujourd'hui, le paludisme tue entre 1 et 3 millions de personnes dans le monde. Alors, si vous me posez la question pourquoi le paludisme tue et dans quel pays le paludisme tue beaucoup, d'abord le paludisme tue parce que c'est une maladie déjà, c'est une maladie de temps en temps, ça tue, sauf que le paludisme tue beaucoup et reste toujours le problème, le grand problème de santé. Et le paludisme tue parce que c'est une maladie qui n'a pas encore, je dirais, les méthodes de protection à 100% et dont le traitement est efficace, mais de temps en temps, surtout en Afrique, on trouve que les patients, les malades viennent se soigner un peu tard, à un stade un peu avancé, ce qui pousse de temps en temps, ce qui est très regrettable, les décès causés par le paludisme.
Vous dites que les gens se font soigner tardivement. À quoi cela est dû, justement?
Premièrement, il y a toujours en Afrique un problème des centres de santé qui sont proches des ménages, qui sont proches des habitations, sauf les grandes villes où il y a des différentes cliniques, des différents hôpitaux, ou dans des villages les plus lointains, dans des villages les plus poussés, vous pouvez trouver des gens qui aillent se soigner en faisant 30 km, 25 km, vous comprendrez vous-même que c'est pas aussi facile pour se soigner, mais sans oublier aussi que en Afrique il y a toujours des gens qui acceptent et qui admettent qu'il y a moyen de se soigner à la traditionnelle.
Donc ceux qui font tout ce trajet, ils le font à pied?
Oui, comme il n'y a pas de moyens de déplacement assez répandus, comme il n'y a pas, je dirais, des ambulances qui peuvent aller les prendre à la maison et les amener, ils font à pied tout ce trajet. Sans oublier les moyens financiers qui ne sont pas à la portée de tout le monde. Parce que le traitement reste toujours quand même en Afrique un traitement qui est relativement cher en comparant avec les revenus, disons, les revenus de la population.
L'ignorance, le manque d'informations constitue un défi majeur pour prévenir la maladie, indique le docteur Akinore.
Et je voulais préciser toujours que le paludisme reste aujourd'hui la maladie qui tue beaucoup. Ça prend, si vous essayez de comprendre le chiffre, ça prend 3,2 milliards de personnes environ sur cette planète Terre. Et vous savez que 3,5 milliards, c'est une affaire de près de la moitié de la population mondiale qui sont exposés au risque de contracter le paludisme. Et récemment, en 2015, la transmission du paludisme continuait toujours dans presque 95 pays et territoires. Et le paludisme est une maladie évitable. Et le paludisme, qui est le malaria aussi, c'est une maladie qu'on guérit. Et les efforts, je salue toujours la plupart des gouvernements, les efforts supplémentaires qui sont déployés ont essayé de réduire considérablement la charge de la maladie à de nombreux endroits. Par exemple, je dirais, mais toujours l'Afrique subsaharienne continue de supporter une part disproportionnée de la charge mondiale du paludisme. Par exemple, en 2015, la région enregistrait 89% des cas et 91% des décès dus à cette maladie. Donc, selon le rapport sur le paludisme dans le monde en 2015, plus de la moitié, 57 pays, 206 pays, où la maladie existait en 2000, ont réussi en 2015 à réduire d'au moins 60% les nouveaux cas de paludisme. Dans le même laps de temps, 18 pays ont obtenu une diminution de 50 à 75% du nombre des cas de paludisme. Alors, les moustiques imprégnés, je dirais, d'insecticides, je conseillerais toujours qu'il faut essayer de faciliter la population à pouvoir recevoir facilement ces moustiques imprégnés, mais toujours avec des accompagnements, des explications pour pouvoir utiliser, pour que la population utilise bien ces moustiquaires imprégnés. Alors, je donnerai encore quelques statistiques, quelques chiffres que j'ai qui disent que la mortalité du pari en Afrique reste toujours élevée, et comme dans d'autres régions où sévissent le paludisme. J'appellerai toujours à la population, comme je l'ai dit auparavant, d'essayer d'écarter ces eaux stagnantes, ces eaux qui amènent tous les problèmes plutôt que la population ait pour le palu. Et en ce qui concerne les populations, plutôt les gouvernements des différents pays, des différents gouvernements, je dirais essayer de mettre tout près, essayer de faciliter la population à recevoir ces moustiquaires et à recevoir et à approcher à la population ces centres de santé pour faciliter les premiers soins qui sont les soins simples.
Les chiffres sont inquiétants. Près de la moitié de la population mondiale est exposée au paludisme. Carrefour Science et Santé continue. L'avion Solar Impulse 2 a bouclé un tour du monde historique en volant jour et nuit à l'énergie solaire et sans une goutte de carburant. Un exploit, Jacques Aristide, qui peut ouvrir de nouvelles perspectives technologiques.
Oui, l'appareil s'est posé sans encombre à Abu Dhabi, la capitale des Émirats arabes unis, d'où il était parti le 9 mars 2015 pour un périple de 23 jours, effectif de vol et de 43 041 km à travers 4 continents. L'avenir est propre, ce sont les mots du pilote suisse Bertrand Piccard, prononcés sous des applaudissements après la 17e et dernière étape d'un périple destiné à promouvoir les énergies renouvelables. Il se relayait aux commandes du monoplace avec son compatriote André Bochberg. Il est lui entré dans la légende de l'aviation en pilotant Solar Pulse pour son étape au-dessus de l'océan Pacifique, soit 8924 km, en un peu moins de 5 jours et 5 nuits, le plus long vol en solitaire à jamais réalisé. C'est tellement passionnant de voler à bord d'un avion qui ne fait pas de bruit et ne crée pas de pollution, d'après Bertrand Piccard. On croit que c'est de la science-fiction, mais c'est en fait la réalité d'aujourd'hui, dit-il. Pesant 1,5 tonnes, mais aussi large qu'un Boeing 747, l'appareil a volé à une vitesse moyenne d'environ 80 km/h grâce à des batteries qui emmagasinent l'énergie solaire captée par quelque 17 000 cellules photovoltaïques sur ses ailes. S'il a assuré qu'il faudrait attendre avant de voir des passagers sur des avions solaires, Bertrand Piccard a pronostiqué qu'il y en aurait très bientôt dans des avions électriques qui seront rechargés au sol. Son ami Butch Bug est lui d'avis que l'avion solaire ouvrait la voie à de nouvelles technologies comme la propulsion électrique ou les drones solaires. Solar Impulse 2 continuera à effectuer des vols de démonstration à travers le monde. Le pilote propose la création d'un comité international des technologies propres pour conseiller les gouvernements et lutter contre le changement climatique. Le secrétaire général de l'ONU n'a pas manqué de réagir, Ban Ki-moon exprimant sa profonde admiration pour cette expérience en s'adressant en vol à Bertrand Piccard.
Merci Jacques pour ce beau voyage avec le Solar Impulse 2. Découvrons à présent le lapin de Jade. C'est le véhicule d'exploration lunaire chinois qui a rendu l'âme. Lionel Gahima s'est informé pour nous.
Fin de mission pour le lapin de Jade. Ce véhicule téléguidé envoyé par Pékin sur la Lune s'est définitivement éteint. Le rover faisant ses adieux près de 3 ans de mission marquée par plusieurs phases de coma. Conçu pour être opérationnel 12 semaines, le lapin de Jade, U2 en mandarin, aura finalement sondé et arpenté le sol lunaire durant 31 mois, enchaînant problèmes techniques et résurrection pour le plus grand plaisir des internautes chinois. L'appareil, symbole des ambitions spatiales du régime communiste, était devenu une source de fierté en Chine, où la population s'est enthousiasmée de ses prouesses abondamment commentées sur les réseaux sociaux. Mais cette fois, le rover a finalement cessé pour de bon ses activités, a affirmé l'agence officielle Chine Nouvelle, citant l'administration d'État pour la science, la technologie et l'industrie au service de défense nationale. Un demi-siècle après les États-Unis et leur programme Apollo, la Chine a les yeux braqués sur la Lune, où elle rêve d'être le premier pays asiatique à envoyer un homme, probablement après 2025.
Sachez, Lionel, que la Chine consacre des milliards de dollars à la conquête de l'espace, perçu comme un symbole de la nouvelle puissance du pays sous l'égide du Parti communiste au pouvoir. Destination Lomé, avant de nous séparer, le Togo a organisé pour la première fois une fête foraine consacrée essentiellement aux produits togolais, dénommée Foire Made in Togo. La manifestation vise à promouvoir des produits du terroir. À Lomé, Kai Lawson pour VOA Afrique.
Le savoir-faire togolais en matière d'artisanat, de transformation agroalimentaire, en technologie ou encore en ingénierie est exposé sur le site du Centre togolais des expositions et foires CETEF à Lomé et ce, à l'actif de la foire Made in Togo. L'événement est à sa première édition et se veut une vitrine des produits et services togolais. Bernadette Legezim Balouki, ministre de l'Industrie et de la Promotion du secteur privé.
On a voulu rendre visible ce qui est produit au Togo et aussi inciter les jeunes créateurs dans tous les domaines à venir montrer leur génie créateur. Il faut d'abord que ceux qui sont au Togo sachent ce qui est fait au Togo. Ceux qui visitent le Togo sachent ce qui est fait au Togo. Et j'espère qu'à la fin de la foire, tous ceux qui ont exposé repartiront satisfaits également.
À part les produits agroalimentaires qui veulent promouvoir la transformation locale, la plupart des articles ou services proposés à la foire Made in Togo veulent répondre à un besoin. C'est le cas de l'application Relica. Wassanapo, commercial à la société Relica.
Relica, c'est la solution qui vous permet de ne plus perdre vos monnaies après des achats. Habituellement, quand nous achetons dans les boutiques ou dans les pharmacies, les monnaies de 10 francs, 5 francs, on nous dit qu'il n'y en a pas. Désormais, il est possible de récupérer cette monnaie sur votre numéro de téléphone. Il vous suffira après l'achat de communiquer votre numéro de téléphone au pharmacien ou bien au boutiquier et vous envoie cette monnaie sur votre compte Relica. Maintenant, c'est bien beau d'avoir sa monnaie sur son compte. Je fais comment maintenant pour le récupérer? Après un cumul, vous avez la possibilité déjà à partir de 500 francs d'aller récupérer votre monnaie à chaque endroit où vous voyez le logo Relica.
Réduire la pénibilité des travaux de décorticage de certaines légumineuses et céréales, c'est l'objectif poursuivi par le Centre de recherche, d'invention et d'innovation technologique qui fabrique des machines spécialisées. Abdelaziz Douti du 10 Centre.
Vu les difficultés à décortiquer l'haricot et le soja, nous avons mis au point ces machines pour pouvoir réduire le temps et l'effort. Ici, nous avons une machine qui permet de décortiquer l'arachide, l'haricot et le soja. De l'autre côté, nous avons cette machine qui permet de piler les noix de palme et de concasser les noix de palme. En 10 minutes, vous pouvez décortiquer 5 kg d'arachide ou bien d'haricot. L'autre machine permet de concasser les noix de palme 3 kg en 5 minutes.
Des machines qui pourraient un jour fonctionner à base du biogel, de l'éthanol sous forme de gel que propose l'ingénieur Cody Essama Egbare.
À cette foire Made in Togo, nous exposons notre cuisinière à biogel. Donc le biogel est fabriqué à partir donc des déchets agricoles. Donc on transforme ces déchets agricoles là en bioéthanol. Donc le bioéthanol est transformé en gel en ajoutant dans un agent gélifiant, ce qui donc donne le biogel. Nous avons fait le modèle de telle sorte que le pack de 9 litres de biogel puisse équivaloir à une bouteille de 6 kg de gaz butane. Nous voulons donc introduire au Togo le modèle qui consiste à incorporer ce bioéthanol à l'essence, une faible incorporation de 5%.
Pour pouvoir faire la promotion des produits Made in Togo en dehors de cette fête foraine, une centrale d'achat des jeunes entrepreneurs du Togo vient d'être mise en place. Sika Nyaniko nous parle de la Cadence.
Le constat qui est fait est que les jeunes entrepreneurs ont des difficultés à se positionner sur le marché, d'où la mise en place de ces centrales-là pour pouvoir les aider à commercialiser leurs produits, voire même exporter ces produits-là. La Cadence, c'est une centrale de stockage, d'achat-vente des produits des jeunes entrepreneurs togolais. L'objectif étant de commercialiser ces produits-là et également d'accompagner ces promoteurs-là à travers une stratégie marketing appropriée à leurs produits.
La foire Made in Togo court jusqu'au 2 août prochain. Occasion d'y découvrir ou de redécouvrir le génie créateur togolais. Kaylosson Lomé, VOA Afrique.
Eh bien voilà, c'est le savoir-faire qui compte, nous apprend un proverbe guadeloupéen. C'est la fin de Carrefour Science et Santé. Merci de votre attention. Eric Manilakis a été avec vous. À la prochaine.
De nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. Notez notre nouvelle adresse voafrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages, photos et vidéos, et vos commentaires sur voafrique.com. À tout de suite.